au milieu du brouhaha de ce monde, comme le dit Jésus. Jacques, je crois que tu avais le verset. Alors voilà, beaucoup le connaissent, mais c'est bien, peut-être on peut l'afficher. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Je crois que c'est aussi un exercice pour nous d'écouter la voix de Dieu pour qu'elle devienne familière et puis qu'on puisse la reconnaître au travers de tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Et j'aimerais vous laisser ce petit chant que certains connaissent peut-être. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Voilà, c'est sympa d'avoir ce petit chant, parce que, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais de chantonner un peu, on se remémore plein de promesses et de vérités bibliques, et je trouve que ça aide aussi à passer des fois le cap, hein. L'ennemi de nos âmes veut nous voler la joie et la paix que nous procure la relation que Dieu peut avoir avec chacun d'entre nous. Que Dieu veut avoir aussi avec chacun d'entre nous. Et j'aimerais juste avec vous voir trois points. Ne laisse pas les difficultés que tu traverses te faire douter de l'amour de Dieu envers toi. Cette parole de Paul dans sa lettre aux Romains peut être troublante si elle est mal comprise. Connaissez un peu ce texte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, ouais, c'est facile à lire ça, hein. Sauf que quand les circonstances sont là, ben, toute chose travaille pour le bien ou concourt ensemble, peu importe la version, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, te dit, ouais, bon. J'aurais bien aimé que ça se passe différemment, hein. Des fois, on se demande si vraiment tout va dans le bon sens. Nous savons et nous croyons, je crois tous ici, que notre Dieu est souverain, que rien ne lui échappe et qu'il n'est jamais dépassé par les circonstances que nous traversons. Donc, je crois que cette parole, il faut la comprendre comme une parole d'espérance pour le peuple de Dieu. L'affirmation « Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime » est une parole de confiance et d'espérance que Paul a écrite. Lui, l'apôtre du Seigneur, qui selon son propre témoignage dans sa lettre aux Corinthiens, était écrasé, à bout de force, au point qu'il désespérait même de conserver la vie. Il était accablé de toutes sortes de détresses, désemparé, persécuté, terrassé. Il a enduré les privations, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes. Tout un panel de choses qui l'ont fait souffrir et qui l'ont même, comme le disait Francis, hein, emmené jusqu'au fond du trou. Et je crois que c'est lui qui a pu écrire. Enfin, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûr d'ailleurs, que c'est lui qui a écrit que toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors oui. Ne laissons pas s'installer le doute dans nos cœurs. Lui qui nous a manifesté son amour en nous donnant ce qu'il avait de plus précieux, son fils Jésus, comment pourrait-il être indifférent à la souffrance que tu traverses? Dieu a pris soin de nous rejoindre sous une forme humaine dans le Christ. C'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure par ces éléments. Il est le seul à pouvoir comprendre ce que tu vis et que tu ressens au plus profond de toi. Comme encore Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, le Christ, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité qu'il avait avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Je crois que c'est important de se rappeler, même si on le fait régulièrement, dimanche après dimanche, que oui, Dieu est venu dans notre humanité. Et tout ce qu'on connaît par cœur, je dirais avec notre tête, c'est bien de le laisser peut-être descendre un peu au niveau de notre cœur. et de se dire aussi que ouais, ce Dieu, il est le seul à pouvoir te rejoindre là où tu te trouves ce matin. Le deuxième point, c'est le but est de manifester. Le but de Dieu, donc, c'est de manifester sa gloire au travers de nos circonstances. Alors ouais, c'est sûr qu'on pourrait se dire, ils auraient pu trouver un truc un peu mieux, hein. Quand on a des circonstances faciles, c'est facile de donner gloire à Dieu. Quand elles sont plus difficiles, ben voilà, c'est aussi plus difficile de voir la gloire de Dieu. Une des raisons pour lesquelles Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies est pour que nous croyions en lui déjà et que nous le reconnaissions comme celui qui a seule autorité sur nos vies. Et on trouve déjà un aperçu de cette révélation par les circonstances que Jésus nous a laissées dans Jean 2. Vous connaissez l'histoire de Cana où Jésus transforme l'eau en vin. Donc là, c'était plutôt un côté sympa des circonstances. Enfin, ça aurait pu mal tourner pour eux, ceux qui avaient organisé, mais là, pour le coup, voilà. Et on trouve ce texte dans Jean 2, c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc voilà. Voilà pourquoi il y a eu ce premier miracle et pourquoi Dieu se plaît à manifester sa gloire à travers nos circonstances. Mais nous voyons aussi dans un autre récit et ce récit, en fait, c'est Camille qui nous l'a partagé. Alors, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, alors je vais pas tout le relire parce qu'il est assez long, hein. C'est le récit de Jean 11. Cette histoire, je vais vous la faire courte, hein. Cette histoire où les amis de Jésus, Marthe, Marie, Lazare, voilà, sont à Béthanie dans leur petit village et Jésus est loin. Et puis voilà que Lazare est malade. Et malade gravement, hein, a priori, puisque les deux sœurs envoient quelqu'un dire aller trouver Jésus, lui dire « Oh, il faut que tu reviennes, ton ami est malade, il va pas bien du tout et nous savons que toi tu peux faire quelque chose pour lui. » Et voilà que Jésus continue ce qu'il avait à faire sans se dépêcher de venir. Et ce qui devait arriver arriva, Lazare était vraiment malade, Lazare est maintenant mort, et Jésus n'est toujours pas là. Et donc, on verra tout au long de ce récit ce qui se passe et qui peut vraiment nous encourager à tourner les yeux vers notre Dieu. Et on trouve dans Jean 11, verset 4, « Quand Jésus apprit la nouvelle, donc que Lazare était mort, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. » Elle sera une occasion pour faire paraître la gloire du Fils de Dieu. » Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller, les circonstances, jusque même à la mort, ça peut aussi servir à manifester la gloire de Dieu. Mais notre nature humaine est faite qu'il y a souvent des obstacles dans nos vies pour que la gloire de Dieu soit pleinement manifestée. Et je crois que comme Marthe et Marie, quand nous traversons des épreuves, nous avons très envie de voir Dieu se manifester en apportant une solution qui guérira notre souffrance. Et oui, hein, on ne cherche pas ce qu'elles attendaient, ces femmes, c'est que Jésus revienne peut-être en courant et qu'il pose sa main sur Lazare et que Lazare aille mieux. Je crois que forcément, c'est humainement parlant, c'est normal, hein. On a envie d'être délivré de ce qui nous fait souffrir. Et comme elle, nous sommes peut-être en larmes et en colère parce que Dieu n'est pas intervenu avant qu'il n'y ait plus de solution à vue humaine. Je crois que c'est... Voilà. Peut-être que tu te trouves aussi dans cette situation ce matin où tu as fait des versets, peut-être des kilomètres de prières. Il ne s'est rien passé. Peut-être que tu te dis, voilà, à vue humaine, c'est perdu. Et oui, des fois, on peut se le dire. Et je crois que La réalité nous le rappelle, voilà ce que nous avons entendu. Et Marthe de lui dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus de lui répondre, « Ton frère reviendra à la vie. » Je crois que ce reproche que fait Marthe à Jésus, on peut le dire comme ça, hein, je pense que, à mon avis, elle devait être assez en colère. Quand il s'est pointé à Béthanie, elle sort et je pense qu'elle était... Enfin, j'imagine, vous imaginez comme vous voulez la scène d'ailleurs. Hein. Je ne veux pas vous influencer, mais je pense qu'elle était en colère. Et je crois qu'on peut aussi, d'une certaine manière, dire notre colère à Dieu. Hein. Je crois que des fois, il faut peut-être la laisser sortir. Et ce qui est intéressant, et ça je l'ai vu en relisant à nouveau ce texte, et je l'ai marqué que ce matin d'ailleurs, que il y avait deux sœurs, hein, Marthe et Marie. En fait, dans notre esprit, enfin je sais pas dans le vôtre, mais en tout cas dans le mien, on a un peu deux niveaux de spiritualité et de foi. Marthe, toujours elle est un peu en dessous, et Marie c'est le top. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais... C'est peut-être le monde évangélique qui nous l'a un peu présenté comme ça aussi. Donc on a été influencé, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Donc on a vu que Marthe, elle va vers Jésus et voilà, elle lui dit sa colère. Mais Marie, on va dire la un peu plus top spirituelle, elle va aussi vers Jésus et elle lui dit les mêmes paroles. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, il y a quand même une petite différence. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le texte. On ne l'a pas lu, donc voilà, vous ne l'avez peut-être pas en mémoire. Mais Marie, quand elle arrive devant Jésus, elle se jette aux pieds. Elle se jette à ses pieds pour lui dire ce qu'elle ressent. Donc, je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais peut-être. Elle avait vécu des choses avec son Seigneur particulières. Et peut-être que voilà, l'autorité de Jésus qu'elle reconnaît est différente dans sa vie. Mais voilà, ça, c'était juste une petite parenthèse que je me dis, même si, voilà, on peut se dire, ah, si ça arrivait à un autre, il réagirait pas comme moi. Il serait moins abattu, peut-être, ou ceci ou cela. Et je crois que la preuve en est, elles ont toutes les deux la même réaction. Donc voilà, que Dieu nous garde aussi de, comme on disait tout à l'heure, de juger mon frère ou ma sœur par rapport aux circonstances qu'ils traversent. Et donc on continue l'histoire. Donc il y a un échange entre Jésus et Marthe, d'abord. Et comme Marthe, peut-être que nous disons... Je sais qu'un jour, quand nous serons dans la présence de Dieu, toute cette souffrance sera finie, ne sera plus, hein, c'est ce qu'elle dit. Hein. Quand Jésus lui dit « Ton frère reviendra à la vie », « Je sais bien », répondit Marthe, « quand il reviendra à la vie au dernier jour, la résurrection des morts. » Ça, c'est, on a plein de trucs dans la tête, plein d'idées, c'est tout bien cadré, sauf que quand la réalité et la souffrance nous rattrapent, c'est pas la même chose. Et Jésus de lui répondre, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que ce qui va se passer, elle n'en sait rien, forcément, mais c'est pas dans l'au-delà que ça va se passer ou dans le futur, mais Jésus veut te donner une solution ce matin et maintenant, dans la mesure où tu veux bien écouter aussi ce qu'il a à te dire. Et je crois que Jésus veut nous redire ce matin, je suis, à chacun d'entre nous, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a une question derrière, crois-tu cela? Je crois que c'est, voilà. Alors on parlait de mort, de résurrection, mais je crois qu'il peut y avoir aussi des résurrections dans nos circonstances, même si on a fait des mauvais choix. Je crois que c'est, voilà, tout n'est pas fini pour autant. Alors oui, certes, il y a des choix qui font que peut-être que toute notre vie, on va en supporter le poids et ça risque d'être compliqué. Mais je crois qu'il y a cette résurrection, il faut la voir aussi comme une solution et la vie qui continue. Et je vous laisse juste cette preuve de Genèse 50, verset 20. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire de Joseph, où il y a eu avec ses frères tout un tas de mauvais choix. Ils ont fait des mauvais choix. Et Dieu leur dit à la fin, voilà, tout le mal que vous avez fait, c'est Joseph qui leur dit ça, a été transformé en bien. Dieu peut le transformer en bien. Et je crois que c'est aussi des belles paroles à garder pour cet espoir que nous avons dans notre Dieu qui est au-dessus de tout et qui tient toutes choses entre ses mains. Et donc, quand il lui dit « Crois-tu cela ?» Comme Marthe, j'espère que nous pouvons tous répondre « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marthe a la foi, mais est-ce que c'est pas une foi plus théorique que pratique ? Alors, je vais pas lui lancer la pierre, hein, parce que je crois que je lui ressemble souvent un peu. Par les circonstances que nous vivons, Jésus veut nous faire aller plus loin avec notre foi. Et du coup, il leur demande « Où est Lazare ?» Et là, devant le tombeau et la détresse humaine, Jésus pleure. Relisez ce texte, c'est dans Jean 11, vous trouverez tout cela. Et voilà, je crois que ce texte nous révèle l'humanité de Jésus. Comme je disais, on l'a évoqué avec ces éléments, mais je crois que cette histoire nous rappelle justement ce que le Saint-Esprit a voulu nous laisser, c'est ce petit détail où Jésus a pleuré avec Marthe et Marie et tous ses amis qui étaient là. Je crois que ce texte nous révèle l'humanité de Jésus et on peut lui dire... Et tu peux lui dire avec tes mots ou avec tes larmes ce qui pèse sur ton cœur. Il prendra le temps de t'écouter sans aucun doute, puisqu'il a fait avec ces deux femmes. Et mon troisième point, c'est qu'est-ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu ? Jésus leur demande d'enlever, ils sont là maintenant devant le tombeau, et Jésus leur demande d'enlever la pierre. Et Marthe, encore elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais imprégnez-vous de ce texte. Elle lui dit « Non, non, Seigneur, c'est pas une bonne idée, là, ce que tu es en train de demander. » Pourquoi elle lui dit ça ?« Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. » Et Jésus de lui répond « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous voyez, encore une fois, la raison de Marthe l'emporte sur sa foi. Et je crois que cette foi théorique que je disais, je crois qu'à beaucoup de points, je lui ressemble, je ne sais pas vous, j'espère que non, mais bon, voilà. Je crois qu'on est tous fait un peu de la même pâte. Et lorsqu'enfin la pierre est roulée et que Jésus crie avec une voix forte, « Lazare, sors de là !» Tous voient l'incroyable se réaliser, la résurrection d'un mort. Ne sommes-nous pas comme Marthe ? Nous croyons, mais en fait, nous ne croyons pas en fait. Comprenez ce que je veux dire? Nous ne croyons pas pleinement, en fait, cette parole de Dieu. Nous croyons en théorie, mais en pratique, en fait, nous ne sommes pas prêts à ôter la pierre qui nous empêche de voir l'incroyable se réaliser. Alors, cette pierre, tu l'appelleras comme tu veux, hein. Là, pour le coup, c'était la pierre du sépulcre. Mais il y a plein de choses, peut-être, qui nous empêchent. Et qu'on n'a même pas envie avec peut-être la même réflexion que Marthe, il sent déjà ou si je retire ce truc-là, ça risque de pas être beau à voir. Ouais. Je crois que ça nous rejoint certainement à quelque part. Nous avons d'un côté une connaissance et une foi biblique, et de l'autre l'implacable réalité de ce que nous connaissons par notre nature humaine. Qu'un mort, quand il est mort, il est bien mort. que les lois physiques sont immuables, qu'on ne peut pas marcher sur l'eau, qu'on ne peut pas multiplier du pain. Ouais, ça, je crois que dans notre nature humaine, c'est quelque chose, voilà, qu'on ne peut pas contester. Marthe a raison par la raison, mais elle a tort quand on rentre dans le domaine de la foi en Jésus-Christ. Alors, n'hésitons pas, si Dieu nous demande d'ôter la pierre, soyons attentifs à ce que notre raisonnement humain ne vienne pas couvrir la voie et l'action du Saint-Esprit que Dieu a mis dans notre cœur. J'imagine que Marthe n'a pas roulé seule cette grosse pierre. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je vous mets ça, parce que je crois que Jésus lui a pas demandé à elle de la rouler, il a demandé à ceux qui étaient là, mais voilà, je me suis dit, mais toute seule, elle ne pouvait pas la rouler, ce truc énorme. Peut-être que toi aussi, tu ne peux pas la rouler seule, cette pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Elle est trop lourde. C'est aussi pour ça que Dieu a voulu l'Église comme une famille, pour que nous puissions nous venir en aide les uns les autres. C'est ce chant qu'on a pris ensemble. Nous sommes unis dans la famille de Dieu, cette chaîne d'amour. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser ce commandement nouveau que Jésus nous donne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et il y a Jacques aussi, alors pas moi, celui qu'on trouve dans la parole de Dieu, hein, nous invite à prier les uns pour les autres. Et Paul nous dit aussi, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. On trouve ça dans sa lettre aux Galates. Et je crois que l'amour que Dieu met dans nos cœurs, quand c'est lui qui met l'amour dans nos cœurs, je crois que il nous ouvre les yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Alors soyons aussi attentifs pour que nous puissions voir les choses que Dieu veut nous montrer chez notre frère ou notre sœur qui souffre. Et j'aimerais que cette prière des apôtres soit aussi la nôtre à chacun. Seigneur, augmente notre foi. Alors la gloire de Dieu pourra se manifester dans chacune de nos vies. Et je crois que nous serons en bénédiction autour de nous, comme ça a été le cas dans notre histoire. Et comme vous allez relire ce texte, vous verrez qu'à la fin, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Je crois que c'est, voilà, pourquoi Dieu a manifesté sa gloire. En fait, c'est pour qu'il y en ait beaucoup encore qui le découvrent et qu'il y en ait beaucoup qui le rencontrent aussi et qui puissent faire la paix avec Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et qu'on puisse être simplement des instruments entre ses mains. Je vous invite à prendre ce chant maintenant. Ce chant qui dit à ceux qui souffrent dans la foi, au chancelant, tu tends les bras. Cet amour qui peut libérer. Et ce chant qui dit aussi, tu nous appelles par notre nom. Je crois que Dieu te connaît par ton nom et il t'appelle aussi. Voilà, par ton nom, à venir à lui, à te décharger sur lui, à voilà, quelles que soient les circonstances de vie que tu traverses, je crois qu'il veut te rejoindre là où tu te trouves ce matin et tu n'es pas un numéro pour lui, mais il t'appelle aussi par ton nom.